le magazine des Nations Unies.
Élections en RDC, il n'y a plus de temps à perdre et la MONUSCO est déterminée à soutenir le processus électoral et le dialogue entre acteurs congolais dans le respect de la Constitution. Le porte-parole de la mission onusienne l'a encore répété haut et fort mercredi dernier à Kinshasa. C'est la grande actualité de la semaine. L'ONU engagée dans une stratégie pour que d'ici 2030, le sida ne soit plus un problème de santé majeure. Une rencontre de haut niveau de l'Assemblée générale est prévue en juin prochain à New York. Et la RDC y prendra une part active, selon le directeur pays de l'ONU SIDA. Vous suivrez Marc Sabat dans cette émission. Enfin, 500 000 euros, c'est l'appui des Pays-Bas au projet du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, relatif au processus démocratique en RDC. La signature du protocole d'accord est intervenue mardi dernier à Kinshasa. L'ambassadeur des Pays-Bas et le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sont nos invités ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. Processus électoral, dialogue, il en a encore été question ce mercredi 13 avril au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Pour la MONUSCO, le temps presse et selon son porte-parole, la communauté internationale est déterminée à s'impliquer dans la tenue du dialogue pour l'aboutissement dans le délai du processus électoral en République démocratique du Congo. Les détails, c'est avec Honoré Missenga Kalala.
D'abord, concernant le dialogue, l'ONU tient à ce que les Congolais s'accordent à aller vers un forum inclusif pour éviter l'impasse électorale qui plane sur la RDC et c'est dans cet esprit que la MONUSCO, de son côté, mettra tout en œuvre, a dit son porte-parole, pour aider le facilitateur de ce dialogue à accomplir sa mission. Félix Prosper Bass.
Au niveau de la MONUSCO, nous appuyons fermement, nous mettrons tout en œuvre pour appuyer les efforts de M. Edem Kodjo afin qu'il arrive à remplir sa feuille de route qui est faciliter la tenue d'un dialogue national où toutes les expressions vont être exprimées et que les Congolais pourront s'accorder sur quelque chose afin d'aller vers des élections transparentes. L'objectif final, c'est d'avoir un processus crédible. Donc voilà la position de la MONUSCO. Nous mettrons tout en œuvre afin qu'il réussisse la mission qui lui a été confiée par l'Union africaine.
Le porte-parole souligne toutefois le temps presse et on doit aller à l'essentiel. Les débats doivent avoir comme centre d'intérêt les aspirations des populations, le tout dans le respect de la Constitution.
Les problèmes qui sont posés pour la bonne tenue des élections ne sont pas des problèmes négligeables. Ce sont d'abord des problèmes liés à la sécurité des élections, ce sont des problèmes financiers, ce sont des problèmes techniques liés à la révision du fichier électoral. Mais au niveau des Nations Unies, nous sommes déterminés à accompagner ce processus-là. Nous sommes déterminés à appuyer la révision du fichier électoral. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre les bons offices à travers le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour amener toutes les positions à se réconcilier et qu'on aille à l'essentiel parce que le temps presse. Donc, quelles que soient les discussions qui vont être initiées et quelles que soient les conclusions qui sortiront de ces discussions, il y a un facteur fondamental, c'est la prise en compte au centre de tous les débats des populations congolaises parce que c'est ça qui nous intéresse, mais tout ceci doit se faire dans le respect de la Constitution.
Respect de la Constitution, mais aussi respect des droits fondamentaux, mais là aussi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme observe avec inquiétude une tendance à l'augmentation des violations des libertés fondamentales. Son directeur, José Maria Aranaz, l'a souligné au cours de la même conférence de presse.
Il n'y aura pas de sélection crédible s'il n'y en a pas de respect des droits de l'homme consacrés à la Constitution congolaise pour tous les acteurs du processus électoral, ça veut dire les acteurs étatiques qui respectent les droits de l'homme et aussi l'opposition pour la société civile et pour les médias. Ça, c'était le message principal du secrétaire général que il a été ici dans la visite du mois passé. Pour la crédibilité des sanctions, c'est nécessaire d'avoir le respect des droits fondamentaux consacrés à la Constitution, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation. Mais chaque mois, nous sommes très préoccupés par la tendance à l'augmentation des violations des droits fondamentaux qui dénotent une restriction de l'espace démocratique. Il faut changer cette tendance inquiétante ou très préoccupante si on veut avoir les élections crédibles et apaisées.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disons dans le sommaire, l'Assemblée générale de l'ONU a convoqué une rencontre de haut niveau sur les VIH-SIDA du 8 au 10 juin à New York. Chefs d'État et de gouvernement, acteurs de la société civile sont attendus à ce rendez-vous d'où sortira un engagement des nations du monde pour que d'ici 2030, l'épidémie soit maîtrisée. La RDC sera présente à ce rendez-vous avec une feuille de route bien conçue selon M. Marc Sabat, directeur pays de l'ONU-SIDA en RDC. Suivez plutôt l'entretien qu'il a accordé à Honoré Missingakalala en prévision de la rencontre de New York.
Monsieur Marc Sabat, bonjour.
Bonjour.
La prochaine réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU sur le VIH-SIDA est prévue du 8 au 10 juin 2016 à New York. Qui devront prendre part d'abord à cette rencontre?
Je dois d'abord vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de faire le point sur cette réunion d'une grande importance qui est prévue du 8 au 10 juin 2016 à New York. Cette réunion est convoquée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle doit regrouper les États membres des Nations Unies au plus haut niveau.
Au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État, des chefs de gouvernement
ou... Au niveau des chefs d'État et des chefs de gouvernement, nous espérons une participation vraiment de très haut niveau.
De quoi il sera question à New York?
Au cours de cette réunion, il est prévu non seulement de faire le bilan de la mise en œuvre de la déclaration politique de 2011, dans laquelle les États se sont engagés à travailler pour l'accès universel pour les services de prévention de traitement au VIH. Donc, dans un premier temps, il s'agira de faire le bilan de la mise en œuvre de cette déclaration politique, de cet engagement, disons, des différents États. Et dans un deuxième temps, la réunion doit se pencher sur la nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA pour la période 2016-2021. Ce que nous visons également, c'est au cours de cette réunion d'arriver à une déclaration politique qui va engager l'ensemble des États pour soutenir cette nouvelle stratégie. C'est vrai, des progrès importants ont été réalisés en matière de réponse au VIH, au plan mondial et bien sûr au niveau des pays. Mais le travail n'est pas fini, reste à faire. Donc, il est très important que nous puissions mobiliser les pays autour de la nouvelle stratégie dans le but d'arriver à une accélération majeure de la réponse pour consolider les acquis qui sont déjà réalisés. Il est vraiment important que les États réellement soient représentés au plus haut niveau pour que nous puissions, disons, arriver à une déclaration politique robuste qui permettent de dégager très clairement des stratégies pour que la réponse au VIH puisse vraiment connaître une accélération dans les 5 prochaines années.
Alors, on est à moins de 2 mois de ce rendez-vous. Comment l'ONU-SIDA-RDC évalue-t-elle les préparatifs de la participation de la partie congolaise?
Je dois dire que cette préparation, elle est très satisfaisante. Au niveau, disons, la RDC, 2 consultations nationales ont été organisées les 10 et 11 mars dernier. Une consultation de la société civile, bien sûr, comprenant également des acteurs, des organisations des jeunes, le secteur privé. Et au cours de cette consultation, des discussions très approfondies et très ouvertes ont été vraiment menées et des recommandations très importantes et pertinentes ont été faites afin que, en allant à cette réunion, la société civile congolaise puisse être bien préparée. Au niveau, disons, du secteur public également, il y a eu une consultation. Elle s'est tenue le 11 mars. Également, nous avons donc constaté une forte participation des acteurs nationaux, des acteurs du secteur public. Également, les grandes lignes pour la réponse au niveau national au cours des 5 prochaines années ont été dégagées. Des recommandations ont été formulées. Et je pense que la RDC ira à cette réunion très bien préparée avec des propositions non seulement qui vont permettre de réengager la réponse au niveau national, mais également de contribuer au plan mondial aux défis liés à la lutte contre le VIH-SIDA.
Oui, vous avez parlé de la société civile, des responsables d'organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont réunis en mars dernier à Dakar, au Sénégal, avec l'appui de l'ONU-SIDA. Est-ce que la société civile congolaise a-t-elle participé aux travaux de Dakar?
Ma réponse est affirmative. La société civile congolaise a été représentée. Il s'agissait d'une réunion sous-régionale et la société civile congolaise est partie déjà préparée. Comme je vous l'ai dit, il y a, disons, eu des consultations au niveau national. Donc, cette participation de la RDC est une participation déjà avisée parce que les gens étaient préparés et les recommandations liées à une accélération de la réponse, à l'accroissement des services de prévention, de traitement ont été formulées. La participation, disons, la société civile en tant que partenaire clé de la réponse, les modalités de cette participation ont également été discutées.
Alors, quelle est d'une manière générale la feuille de route de la société civile par rapport à ce problème du SIDA?
Bon, je crois qu'il s'est dégagé clairement la nécessité vraiment d'impliquer la société civile, surtout dans les interventions en matière de prévention, parce que cette société civile est quotidiennement en interaction avec les communautés qui ont besoin justement de ces informations sur comment se protéger contre l'infection à VIH. Elle veut également connaître les modalités de transmission et également aussi la sensibilisation pour que les gens puissent aller au dépistage, bien sûr en leur donnant l'information que le traitement existe et ce traitement est gratuit. Donc je crois que la société civile reconnaît et elle est disposée à jouer un rôle plus actif au niveau disons, de la RDC. Je dois dire que nous pensons également justement, si nous voulons réellement arriver au passage à l'échelle, nous ne pouvons pas écarter la société civile. Elle a un rôle à jouer et nous pensons que nous devons faire en sorte que la société civile puisse arriver, contribuer même au dépistage, cela est possible. Bien sûr, à la mobilisation des populations et bien sûr à tout ce qui est soutien psychosocial également.
Le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH était évalué à 2 millions en 2014 et celui des décès liés au sida à 1,2 million. Et dans les deux cas, l'objectif était de réduire ces taux à moins de 500 000 en 2020. Qu'en est-il, monsieur le directeur, de l'état des lieux du VIH? Sur le plan mondial d'abord.
Bon, sur le plan mondial, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Des progrès significatifs ont été réalisés en matière de traitement. Les objectifs du ministère ont été largement atteints. Nous, en fin 2015, on était autour de plus de 15 millions de personnes sous traitement. C'est un des objectifs qui a été atteint. Donc, il y a des résultats. Les résultats sont encourageants. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à accroître toutes les interventions, justement, en espérant que d'ici 2030, nous pouvons contrôler l'épidémie à VIH, faire en sorte que le VIH ne soit plus un problème majeur de santé publique.
Oui, ça c'est au niveau mondial, mais au niveau de la RDC, quel est l'état des lieux?
Au niveau de la RDC également, il y a des progrès qui ont été réalisés. La couverture en matière de traitement est autour de 32%. Aujourd'hui, on a plus de 110 000 personnes qui sont sous traitement, qui représentent environ les 32% des personnes qui ont besoin d'être mises sous traitement. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un effort à faire.
Le taux de prévalence, il est de combien?
La prévalence est de 1,2%, mais bon, je dois également préciser que ça cache des disparités. Par exemple, les femmes sont trois fois plus infectées que les hommes. La prévalence au niveau des hommes, c'est 0,6%. Tandis qu'elle est de 1,6% chez les femmes.
Peut-être aussi un dernier mot, un conseil aux jeunes par rapport à la problématique du sida.
Bon, je dois dire que le sida, c'est une réalité. C'est vrai, le traitement existe, les moyens de prévention existent, et bien sûr, les jeunes sont les plus exposés. Donc, le conseil, c'est vraiment, ce que nous disons, c'est bien sûr l'abstinence. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Il y a aussi la fidélité. Mais également, il y a les moyens de prévention. Donc, on a les préservatifs qui sont disponibles. Donc, je pense que tous ces aspects doivent être pris en compte, et les jeunes doivent prendre conscience qu'ils doivent se protéger contre le VIH, parce que, réellement, c'est un problème qui est dans la société. Nous devons y faire face, mais bon, je pense que nous pouvons dire que les moyens pour y faire face existent. Donc, c'est une question de comportement et les jeunes, justement, sont appelés à avoir un comportement qui puisse les exposer moins à l'infection à VIH.
Monsieur Marc Saba, vous êtes directeur pays de l'ONU SIDA en RDC. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Kapi.
Je vous remercie.
Et nous ouvrons cette page avec le volet lutte contre l'exploitation et les abus sexuels pour vous signaler la visite de travail que Madame Jane Hall-Lout a effectuée du 11 au 16 avril 2016. Jane Hall-Lout est la coordonnatrice spéciale pour l'amélioration de la réponse de l'ONU à l'exploitation et abus sexuels. Pendant son séjour, elle a rencontré plusieurs autorités congolaises à Kinshasa, dont les ministres de la Défense, de la Femme, Famille et Enfants, des Affaires étrangères ainsi que des responsables du système des Nations Unies en RDC. En dehors de Kinshasa, Madame Hall-Lout s'est également rendue dans l'est du pays, à Goma et Béni notamment. Protection de l'enfant, 557 violations graves des droits de l'enfant documentées par la MONUSCO au premier trimestre 2016. Des violations commises sur 513 enfants. 98% de ces violations sont attribuées aux groupes armés tels que les FDLR, les Mai Mai Nyatura, les Raia Mutomboki, les NDC Tchekia et les FRPI. 54% de ces enfants avaient moins de 15 ans au moment de leur recrutement, ce qui constitue un crime de guerre. La section protection de l'enfant de la MONUSCO précise aussi que dans ce lot, 96 enfants ont été utilisés comme combattants et 23 filles ont été victimes de violences sexuelles. Enfin, volet développement, la FAO pour un meilleur stockage des céréales et légumineuses. Ainsi, la FAO a procédé à la formation de 8 forgerons provenant des territoires des Boulungu et d'Idiofa pour la province du Kwilu et de Sekebanza et Luozi pour la province du Congo central. Ces forgerons ont représenté des groupements, des producteurs et gestionnaires d'entrepôts ainsi que des inspections de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Il s'agit d'une formation pratique sur la fabrication des silos métalliques hermétiques.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Les Pays-Bas accordent 500 000 euros en appui au projet du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme relatif au processus électoral en République démocratique du Congo. La cérémonie de signature de protocole d'accord a eu lieu mardi dernier au siège de la MONUSCO à Kinshasa. À l'issue de la cérémonie, Jean-Pierre et Lali Coco a interrogé respectivement Gérard Michel, ambassadeur des Pays-Bas en RDC, et le directeur du Bureau conjoint, José María Aranas, sur les attentes et les articulations de ce projet.
Monsieur Gérard Michel, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo. Nous venons d'assister à la cérémonie sur un projet. À quoi porte ce projet, justement?
Bon, si vous permettez d'abord de rappeler que le bureau conjoint fait partie de la famille onusienne. C'est-à-dire qu'il appartient, si vous voulez, à nous tous en tant qu'État membre de l'ONU. Ce sont nous, les États membres, qui lui ont donné sa mission. Et alors, il appartient également à nous, les États membres, de fournir, dans la mesure du possible, les moyens pour qu'ils puissent faire leur travail. Pour ce qui est de ce projet précis, le projet vise, si vous voulez, à sécuriser l'espace politique dans cette période préélectorale en renforçant les capacités d'un côté du secteur non gouvernemental et d'autre côté des services d'État compétents dans cette matière. Voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question.
Alors justement, vous répondez à ma question, mais est-ce qu'on peut avoir le montant qui a été donné? Et puis, précisément, qu'est-ce que vous attendez après ce projet qui est financé, bien sûr, par votre gouvernement? Quelles sont les attentes?
Bon, d'abord, pour notre contribution, c'est bien de 500 000 euros. Je crois qu'il y a d'autres bailleurs, je crois que c'est la Suède, la Belgique qui participent, peut-être. Enfin, en tout cas, monsieur le directeur du bureau conjoint pourrait vous informer. Bon, comme je vous ai dit, pour les attentes du projet, c'est de, comme je viens de dire, sécuriser l'espace politique. Ça veut dire que dans cette période préélectorale, on espère quand même de protéger cet espace qui permet aux citoyens congolais de pleinement jouir de leurs libertés qui sont garanties par la constitution du pays. Et c'est important, bien sûr, dans une période d'abord préélectorale et puis électorale, pour que tout le monde soit en état de s'exprimer librement sur ses vues politiques, ses préférences et peut-être sur l'actualité du pays pour avoir une légitimité démocratique du processus.
Gérard Michel, vous dites que tout le monde doit s'exprimer librement, ce n'est pas évident. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des troubles ou même est-ce que vous avez des craintes là-dessus?
Je n'ai pas l'habitude de me faire motiver par les craintes, mais plutôt par les espérances. Et je crois que ce projet s'inscrit dans cette espérance plutôt que dans les craintes. Voilà.
En tout cas, monsieur l'ambassadeur, Radio Capi vous remercie.
Je vous remercie à vous.
Monsieur José María Aranas, bonjour.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, nous venons d'assister à la signature d'un accord de projet avec le Pays-Bas, donc le gouvernement du Pays-Bas, représenté par son ambassadeur, Monsieur Gérard Michel. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce projet aux auditeurs de Radio Capi qui nous suivent?
Premièrement, je voudrais remercier le gouvernement du Pays-Bas et le peuple du Pays-Bas et pour les appuis et les soutiens à notre bureau de manière directe, mais surtout au processus de la démocratisation à la RDC. Et c'est dans ce cadre que ce projet contribue à ça. Je voudrais aussi remercier le rôle qu'a joué l'ambassade ici avec monsieur l'ambassadeur pour faire cet accord une réalité. Comme vous savez, le Conseil de sécurité a donné à la MONUSCO un rôle fondamental de contribution à la démocratisation et à la protection des civils dans le cadre des élections à l'avenir. C'est projet qu'on signe, c'est une partie d'un projet plus grand de protection, de formation et de monitoring et reporting sur la situation des droits de l'homme et l'RDC dans le cadre des élections à l'avenir. Et c'est ça que nous sommes en train de mettre ensemble, un cadre global de protection des droits de l'homme pour, et des libertés fondamentales dans les élections à l'avenir pour contribuer à la crédibilité de ces processus.
Vous allez faire le monitoring. Vous savez que les cycles électoraux en Afrique et particulièrement en RDC ont été toujours accompagnés de troubles. Et l'exemple des élections en 2006 et en 2011 en République démocratique est éloquent. Alors, que va faire le bureau conjoint concrètement avec cet apport du gouvernement hollandais et comment vous allez sécuriser ces libertés fondamentales pendant la période électorale qui s'annonce quand même cruciale, hein?
Tout à fait. Le but de notre effort, c'est d'avoir les élections crédibles et apaisées. Les projets que nous avons signés, c'est dans le cadre des libertés fondamentaux et approfondir les processus démocratiques. Et il y a trois composants importants. Le premier, c'est la formation de tous les acteurs des processus électoraux, ça veut dire les autorités, les forces de sécurité, la société civile, les journalistes, en matière de monitoring, reporting, de violation des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Le deuxième, c'est d'avoir les mécanismes de protection effectifs. Et le troisième, de nous donner la capacité pour faire les monitoring et le reporting et d'être capable d'approfondir la capacité que nous avons déjà. Et c'est ça les trois éléments fondamentaux du projet.
Mais pour terminer, à part le gouvernement hollandais, est-ce que le bureau conjoint a d'autres partenaires ou même d'autres soutiens dans le cadre justement du processus électoral en République démocratique du Congo?
Notre travail, ce n'est pas directement relationné avec les processus électoraux, c'est approfondir la démocratie dans ces périodes critiques que la RDC confronte. Et il y a des autres gouvernements qui vont donner leur appui. Il y a des gouvernements de la Suède et les gouvernements de la Belgique qui ont exprimé les volontés de contribuer à notre effort à la contribution d'approfondir la démocratie en matière de droits fondamentaux.
Monsieur José Maria Ranas, je rappelle aux auditeurs de Radio Capi que vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Radio Capi vous remercie aussi.
Merci beaucoup à Radio Capi, à tous les auditeurs et surtout au gouvernement du Pays-Bas.
À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, fin ce mardi de la campagne gratuite de réparation des fistules obstétricales. 22 femmes porteuses de fistules obstétricales ont été opérées. L'équipe des médecins chirurgiens a été appuyée par le professeur Sérigne Magayegeye, médecin consultant de UNFPA venu du Sénégal. Ces femmes malades viennent notamment de Lubumbashi, Kolwezi, Kamina, Kasumbalesa et Luboudi. Cette campagne a été initiée par le ministère de la Santé de la RDC avec l'appui de UNFPA. Reportage de Denise Maheo depuis Lubumbashi.
À la fistule à clinique Bénicaire de Lubumbashi où les interventions ont lieu, les femmes porteuses de la fistule obstétricale ou celles déjà opérées sont encadrées pour différents métiers. À l'entrée, 10 femmes apprêtent des gaz à pansement des plaies. D'autres s'occupent de la cuisine et du repassage. Monsieur Ngoy Moutalala, chargé du service d'entretien à la clinique Bénicaire, s'occupe d'elle. Dans la salle d'hospitalisation, 3 malades sont encore cloués sur leur lit. Elles ont subi l'intervention il y a juste 48 heures. 2 d'entre elles sont de Lubumbashi. Elles ont développé la fistule obstétricale après une césarienne.
J'avais eu ma première grossesse et puis maintenant l'accouchement, l'enfant a échoué de sortir. On m'a fait la césarienne ici à Lubumbashi. Après une semaine, maintenant, le pipi, ça commence seulement à sortir comme ça, sans frein.
Oui, mon toto a 5, je parle par une fois césarien. Je suis en fois césarien, je suis en salle, je suis en Chutukia, je suis en Nico, je suis en Koulouban.
La troisième vient de Kolwezi. Pour elle, c'est après un accouchement compliqué qu'elle ne pouvait plus contenir ses urines. Docteur Serigne Magwey Gwey, consultant de UNFPA, a tenu à préciser: la césarienne n'est pas une cause de la fistule obstétricale, elle est plutôt une complication de l'accouchement.
La césarienne n'est absolument pas responsable de la fistule. Ce sont les conditions qui ont présidé à la césarienne qui ont entraîné donc le blocage de l'enfant dans le petit bassin de la maman. Et ce blocage prolongé a entraîné le fait que les organes du petit bassin ont subi des pressions. Et quand on parle d'organes, c'est d'abord le vagin, puis la vessie en avant.
De son côté, Dr Pierre Chamol, assistant de la représentante nationale de UNFPA et chargé de la santé de la reproduction, a assuré que près de 7000 nouveaux cas de fistules obstétricales par an sont enregistrés en RDC et qu'une seule campagne annuelle de réparation ne suffit pas. La campagne de Lubumbashi est allée du 8 au 12 avril. Lubumbashi, Denise Mayo pour le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Des déplacés ont quitté leur site pour occuper des établissements scolaires. Que font les humanitaires? Écoutez plutôt cette question posée mercredi dernier à partir de Goma et la réponse y réservée à partir de Kinshasa par Yvon Edoumou du bureau OCHA RDC.
C'est Norbert Mundoula pour le compte du journal Émergence. Les déplacés qui étaient dans le site d'Empati l'ont abandonné. À présent, ils occupent les écoles des villages de Bouérou et de Kivunga, et également dans les villages aussi d'Empati. Comme vous le savez aussi, que ces déplacés sont considérés comme des soutiens des milices et non pas d'appui aux services sécuritaires. Ma question est de savoir qu'est-ce que ces déplacés peuvent attendre de la communauté humanitaire dans un bref délai pour laisser libre ces écoles. Merci.
Actuellement, il y a un certain nombre d'ONG et d'agences des Nations Unies, soit qui sont déjà dans la zone, soit qui font route vers la zone de Mpati Bouérou pour effectivement prendre le pouls de la situation et voir quel appui humanitaire on peut donner à ces personnes. Pour ce qui concerne les écoles, effectivement, c'est une problématique qui est très récurrente. Nous faisons toujours un plaidoyer auprès des autorités pour que les écoles ne se transforment pas en maison où on abrite pour ses familles, mais effectivement servent à l'éducation de Congolais, y compris aussi des enfants déplacés. Et l'idée, effectivement, c'est que ces écoles puissent être libérées aussi rapidement que possible et qu'on trouve d'autres solutions en termes de logement pour ces personnes-là.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je suis Amine Djouadi. Je suis arrivé à Kinshasa il y a un mois maintenant. Travaillé avec Radio Okapi en tant que stagiaire. J'ai commencé par une formation en communication. Je me suis spécialisé dans la communication politique à Paris. Après quoi, j'ai embrayé sur un autre master en géopolitique et aménagement du territoire. Donc c'était un master qui était spécialisé dans la gestion et des enjeux liés au projet d'aménagement du territoire. Donc tout ce qui concernait les jeux d'acteurs, les différents leviers utilisés par ces acteurs pour faire valoir leurs opinions et leurs préférences sur les projets. Donc pour le moment, chez Radio Okapi, je travaille sur la communication institutionnelle au sein du service web. Donc je prends le temps d'une part de me familiariser avec le Congo et le site d'information, enfin la radio en elle-même. Et par ailleurs, je travaille sur les différents moyens et produits que nous pouvons réaliser pour doter la Radio Okapi d'une image de marque plus forte. Voilà, pour le moment, je découvre encore le Congo. Généralement, mon temps libre, je passe à faire beaucoup de sport, notamment de l'aïkido, parce que j'ai réussi à trouver un club ici. Et voilà, donc je profite finalement de cette situation pour me familiariser notamment avec l'Afrique, puisque c'est un continent qui s'inscrit dans mes projets d'avenir et un continent dans lequel je compte évoluer et perdurer par la suite. En musique, mes préférences, c'est surtout tout ce qui va tourner autour du métal. Donc c'est une forme assez violente de hard rock avec beaucoup de groupes qui sont notamment finlandais, norvégiens et suédois. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, notamment du free fight, du taekwondo. Là maintenant, je fais de l'aïkido. Donc voilà. Ouais, non, j'aime bien la nourriture japonaise, en particulier asiatique en général. Donc oui, indien, chinois, sushi, voilà. Ça. Le projet d'avenir, finalement, ils sont encore un peu vagues. C'est vrai que j'aimerais à terme monter ma propre entreprise en Afrique. Voilà, le domaine, bon, ce serait bien sûr la communication, mais je suis encore à la recherche d'une vraie valeur ajoutée à donner à cette entreprise. Je remercie la radio Okapi pour la chance qu'elle m'offre, et puis j'aimerais saluer aussi tous les auditeurs de Radio Okapi qui sont les premiers acteurs de cette radio finalement, et ce sont eux qui en font sa force.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
À vos agendas, mesdames et messieurs, deux dates à retenir. Le 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre. Et le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est déjà la fin du magazine des Nations Unies. Merci de nous avoir prêté attention. Je suis Tina Salama. Je vous l'ai présenté à la coordination et au reportage Jean-Pierre Elali, Coco et Honoré Missinga. À la supervision Martin Sebujangwe. À la mise en onde de ce magazine Sylvain Matundu. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Bon dimanche chez vous. Mais si vous voulez le réécouter, vous n'avez qu'à taper le www.radiocapi.net. On se dit à très bientôt. Ciao.